A Dicias do Mundo aqui, e o Eio Mie Jornal especial diretamente de La Paiada. Na outra semana, Montpellier. Qu'est-ce que se passa, Lucas? Va plan? A Montpellier per implate o envio direct me FM Plus, em partenariat me Radio País, Radio Occitanio, Radio Albigés, Radio Nissa Pantai, Radio Entre Duas Mars e Radio Cultura do Brasil. A Montpellier lude valé 7000 homens de Santa Africa sur la bande FOM e de impertute sur la planète sur site www.radiolengodó.com. A Dicias do Mundo e o Eslo de Jaws, no 10 de outubro de 2024, nous nous trouvons à proximité du Parc Sophie des Marais, à côté de la mairie annexe de la Mosson et du Théâtre Jean Villard, en plein cœur du quartier de la Paillade. C'est ici, au Halles de la Paillade, que se tient une résidence radiophonique dédiée aux langues et cultures de ce beau quartier. Merci, Mercedes, Shukran à Mathieu, le patron du Café des Halles, pour les prêts de la terrasse, et à la boucherie L'Excellence pour la prise électrique. Nos invités pour cette émission spéciale, Nathalie Bouly, chroniqueuse littéraire et vice-présidente de Radio FM+. Bonjour Nathalie, bonjour.
Bonjour Gisèle.
Fanny Reboul, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des archives départementales de l'Euro, commissaire de l'exposition des pierres vives, Mistral, superstar. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être venue. Et pour compléter ce joli plateau, cette belle table, Nourdine Barra, Montpellierin, habitant de la Paillade, fondateur des Paillade Campus, une université à ciel ouvert. Bonjour Nourdine.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Éparin, Gisèle, je précise, éparin de cette résidence radiophonique, puisque Nourdine nous accompagne depuis le lundi matin et nous a ouvert des portes, donc c'est notre parrain. Voilà.
Justement, Nathalie, c'est à propos de ces beaux plateaux et de cette semaine radiophonique autour des langues et cultures de la Paillade que vous êtes ici. Alors, vous venez de dire, justement, Nourdine Barra est aussi à l'origine de cette semaine. Pouvez-vous nous raconter encore plus de détails ? Nous avons aussi Lara, l'association des radios associatives ici, qui réunit Radio Languedoc, Radio FM+.
Et d'autres, hein, l'Écho des Garrigues, RCF, bien sûr, tout le réseau RCF. Oui. Eh bien, je pense que c'était en janvier ou février, on nous a proposé à toutes les radios de l'ARA, donc l'Assemblée régionale, qui est un syndicat, hein, voilà, des radios, nous propose tous les ans pour budgétiser, pour donner aussi des sous. Et bien sûr, nous propose il y a un appel à projet, voilà. Et donc cette année, l'appel à projet concernait une résidence radiophonique. Donc c'est la région qui subventionne cette opération et qui donne un budget pour que les radios montent un projet. Lara après invente le projet et nous on y répond ou pas. Alors quand on a reçu ça, c'est difficile parce qu'on est des fois un petit peu chacun dans notre univers de radio. On s'est dit voilà, comment on va monter un projet, une résidence, ça veut dire quand même être une semaine, il y avait des obligations, hein. Comme dans tous les appels à projets, c'est-à-dire qu'il fallait être une semaine, produire tant d'émissions, budgétiser, trouver un partenaire ou non, et on est monté. Et puis moi je me suis dit tout de suite, Bruno, est-ce que t'es partant avec moi, voilà, pour Radio Languedoc. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on y va. Et puis après il fallait trouver les idées, et l'idée ça a été pour parler d'un quartier, quoi de mieux que de parler de la Mosson, qui est un vrai quartier et qui c'est le débat depuis lundi, Mosson ou Paillade. Alors j'ai pas encore la réponse de Nourdine. Et puis quand on parle de la Paillade et de la Mosson, très vite on tombe sur Nourdine. J'en avais entendu parler parce qu'il avait fait une expérience de lecture de livres dans une boulangerie, donc je l'appelle, je le contacte, je lui dis Nourdine, est-ce que vous voudriez est-ce qu'on pourrait refaire ça? Il m'a dit dans la boulangerie non, mais j'ai d'autres idées, voilà. Et puis on a travaillé ensemble les mois enfilés, on a travaillé avec Bruno et voilà le résultat qu'on vit depuis lundi et qui est très enthousiasmant, d'abord parce qu'il y a plein de médias qui s'y sont intéressés et que je pense que notre Notre envie, en tout cas tous les deux, Nourdine, tu me confirmeras, c'est de donner de la paillade une image joyeuse, collective, avec des gens qui vous ouvrent les bras, beaucoup d'associations, et comme disait hier Stéphanie de Sésame, un maillage associatif et solidaire absolument incroyable. Et c'est en rentrant dedans qu'on s'en aperçoit. Voilà. Et donc depuis lundi, je suis très heureuse. Voilà. Et pleine de rencontres et pleine de contacts pour l'avenir.
Nourdine, vous êtes d'accord avec Nathalie à propos de cette grande animation qui existe dans le quartier de la Mosson, de la Paillade. D'ailleurs, quelle est l'appellation correcte ? La Mosson, la Paillade ?
Moi, je continue de dire la Paillade. Beaucoup dans le quartier, dans la ville, hein, continuent de dire la Paillade. Et peut-être pour tous ces nouveaux Montpelliérains, chaque année plus nombreux, je pense qu'ils adoptent, eux, l'appellation de Mosson, parce qu'on ne trouve plus aucune trace écrite sur les panneaux de la Paillade. Je pense que c'est ce qui se passe. Ceux qui ont une mémoire du quartier, de la ville, tel qu'il l'était il y a encore 20 ans, 30 ans.
Est-ce qu'on a une toponymie de Kevoldil et de Kezako, la Paillade ?
Je crois qu'à l'origine, c'est un club de sport, la Paillade.
J'ai su l'étymologie, mais est-ce que ça a rapport avec la paille aussi ? Non, il me semble.
On fera une recherche.
Ouais. Et puis, pour ce qui est d'être parrain pour une initiative comme celle-là, c'est volontiers l'aborde telle que Nathalie l'a décrit, j'y souscris, à savoir aborder un quartier de la manière la plus positive, de la manière la plus simple. Et puis, son envie et la vôtre de venir vous installer sur l'espace public, c'est quelque chose qui vient... qui vient s'offrir en motif d'étonnement pour les habitants, et puis un geste aussi très significatif et incarné d'un désir de ce quartier. Voilà ce que produit le seul spectacle de votre radio, là, planté devant le marché de la Paillade, sur des habitants.
Et c'est avec grand plaisir, d'ailleurs, une fois de plus, un cop de maille, on remercie au bar du marché,
Mathieu.
Justement, à Mathieu qui nous a accueillis sur sa terrasse. Fanny Reboul, vous êtes un cœur du quartier également, en tant que représentante des pierres vives. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi votre travail culturel ici, dans ce beau quartier ?
Oui, alors moi, c'est vrai que je suis arrivée à Pierres Vives en 2015. Pierre Vive était installé depuis 2012 et je pense qu'au niveau de l'installation dans ce quartier, c'était vraiment donner une structure culturelle pour les habitants, et je pense que ça... Enfin, je le vois tous les jours par la fréquentation, et on voit que c'est un espace dont les gens se sont appropriés en fait, hein, cet espace, que ce soit côté médiathèque bien sûr, mais même côté archives départementales, parce que les archives départementales, on pourrait se dire, est-ce que les habitants de la Paillade ont vraiment des recherches à faire aux archives ? Est-ce que ça les concerne ? Mais en fait, on a mis en place des animations, une salle qu'on appelle l'atelier de l'histoire, qui est une salle dédiée en fait à toute personne qui a envie d'être un peu tranquille, d'être un peu au calme, de venir travailler, et d'avoir éventuellement une connexion internet. Et ça, on le voit bien, ça fonctionne très bien, que ce soit en semaine ou même les samedis, parce qu'on est ouvert aussi pour cet espace les samedis. Mais on voit qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent, parce que c'est un espace tranquille pour travailler, pour être un peu au calme. Donc c'est quelque chose, voilà, je pense qui a fait du bien, en tout cas au niveau du quartier, et qui est bien intégré vraiment pour le coup dans le quartier.
Le quartier de la Paillade est presque une petite ville. J'ai regardé un petit peu, on a environ 27 000 habitants dans le quartier. Alors, c'est une population essentiellement jeune, Nourdine Barra ?
Oui, beaucoup de jeunes. En
beaucoup
tout cas,
de jeunes.
En apparence, c'est vrai que ce quartier a tout d'une cour de récréation. Les mômes, vraiment, ont une vie que l'on n'a pas au même âge dans le centre-ville. Une liberté de mouvement et d'aller venir de la maison à l'espace public dehors, et c'est ce qui donne à ce quartier, en tout cas, oui, une apparence d'un quartier très jeune, mais ce qu'il est sans doute, mais où le troisième âge, les personnes âgées, se confondent et se mêlent au tumulte de la vie dans ce quartier. Il y a vraiment une osmose ici entre les générations. Voilà.
C'est vrai, Nathalie. À ce propos, je rebondis juste sur ce que dit Nourdine, parce qu'on a commencé avec une liste d'événements, puis il y en a qui se rajoutent tous les jours. Donc hier, j'ai reçu un petit mot de Fatia, qui représente l'IPEC, qui est une association hyper vivante ici, et qui me dit, Nathalie, cet après-midi, il y a les Olympiades. Alors, ça serait bien que tu viennes. Moi, j'avais déjà un emploi chargé, donc bon, on s'est séparés. Et puis, j'y suis allée, j'ai passé une heure avec eux. Donc, sur le mail de la paillade qu'on connaît assez peu, parce qu'on n'y accède pas en voiture, sur le grand mail, il faisait très beau hier, il y avait les grands arbres, et il y avait toute une jeunesse qui était là, qui jouait, il y avait des associations, et je pensais, à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. C'est pas chez vous ?
Non, c'est pas chez
vous. C'était dans le circuit des médiathèques de Montpellier, en tout cas, qui était là il y avait et qui apprenait aux enfants à lire. Et tous ces enfants jouaient, tu sais, les jeux où on met la main sur le rouge, sur le jaune, la twister, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il y avait un bonheur d'échange, et on a été rencontrer tous les participants et tout le tissu associatif autour de l'enfance, justement. Donc oui, c'est une ville jeune, et c'est une ville très offerte aussi là-dessus, sur l'échange avec la jeunesse.
Bon, en tout cas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes dans le quartier de la Paillade, mais le quartier célèbre un monsieur né en 1830, un invité qui s'intègre dans l'horizon du quartier, qui vient de Provence. Il s'appelle Frédéric Mistral, et en ce moment, c'est la grande star du quartier, Fanny Reboul.
Oui, puisque nous inaugurons jeudi prochain l'exposition événement consacré à Frédéric Mistral, Mistral Superstar, de Mayan à Stockholm. Donc de Mayan, c'est sa ville natale et la ville où il est resté jusqu'à sa mort en 1914. Hein, il avait un attachement viscéral à cette ville provençale dans les Alpilles. À Stockholm en référence au prix Nobel qu'il a obtenu en 1904 pour Mireille et l'ensemble de son œuvre. Et c'est important de le noter parce que c'est le premier écrivain en langue régionale à remporter le prix Nobel.
Alors justement, Fanny Reboul, comment est née l'idée de cette exposition autour de Frédéric Mistral, puisqu'on n'est pas interprovençal justement?
C'est vrai, ça peut surprendre. Pourquoi une exposition consacrée à Frédéric Mistral à Montpellier, aux archives départementales de l'Hérault? Il se trouve que nous avons reçu en don, à l'automne 2020, un ensemble important de correspondances relatives à Frédéric Mistral, relatives surtout à la gestion de ses droits. Et pourquoi c'est arrivé chez nous? Le donateur, Monsieur Claude Goyard, un professeur émérite de droit, donc il a enseigné à l'université de Montpellier. Il avait un attachement particulier pour Montpellier. Il connaissait bien aussi l'ancien directeur des archives départementales de l'Hérault il y a plusieurs dizaines d'années. Et il a souhaité nous confier ses archives. Il se trouve que Claude Goyard est également le dernier administrateur de la propriété littéraire de Frédéric Mistral. Et donc ce fonds concerne principalement la gestion des droits littéraires de Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, lorsqu'il est décédé en 1914, n'avait pas d'héritier direct. Donc c'est sa veuve, Marie Mistral, qui a poursuivi la gestion de ses droits littéraires jusqu'à son décès en 1943. Puis son petit-neveu, qui s'appelait également Frédéric Mistral, donc Frédéric Mistral neveu. Et ensuite, dans les années 70, Claude Goyard, pour quelques années, a poursuivi la gestion de ses droits littéraires.
Alors, quelles découvertes vous ont le plus marqué en les explorant pour cette exposition à partir de ce fonds?
Vraiment, la découverte principale, c'est elle est vraiment dans le titre, Mistral Superstar. C'est pas juste pour faire un coup de com, attirer, se dire on va donner un titre un peu percutant. C'est vraiment ce qui est ressorti du classement de ce fonds, puisque ce fonds il nous a été donné à l'automne 2020. à peu près 50 mètres linéaires. Donc vous mettez des boîtes, vous les alignez, ça fait 50 mètres. Donc c'était un fond très important. Et toute une équipe d'archivistes a classé ce fond, l'a organisé selon nos règles archivistiques, donc l'a identifié, a finalement regardé aussi chacune des pièces. Et ce qui est ressorti de toute cette équipe, c'est vraiment cette dimension de star que Mistral avait de son vivant. C'est vraiment la personnalité publique incontournable de son temps. Il est invité partout, tout le monde vient le voir. Et cette reconnaissance qui est à la fois nationale mais aussi internationale, hein, puisqu'on voit quand même que les correspondances qu'il reçoit viennent de partout. Hein, pour un petit exemple, on a un courrier d'une admiratrice argentine, vraiment très très peu de temps avant son décès, qui lui écrit et qui lui demande une photographie avec sa signature. Voilà. Donc on a finalement une base de fans véritablement de Frédéric Mistral. Et ce qui était à noter, c'est que après son décès en 1914, ben en fait cette aura, cette renommée incroyable, elle se poursuit. Et finalement sa veuve, donc Marie Mistral, hein, qui se fait même appeler Madame Frédéric Mistral, elle récupère un petit peu de cette renommée, de cette aura. Elle est invitée elle-même aussi partout. La maison de Mayanne, qu'il avait fait construire lors de son mariage avec Marie Rivière, devient un peu l'objet de pèlerinage.
Moi-même, j'ai déjà visité sa maison. Hein.
Oui, voilà. vous avez vous aussi fait ce pèlerinage.
Oui, tout
voilà.
À fait.
Et c'est vrai qu'on voit que cette aura, elle se poursuit. Les gens continuent d'écrire de partout, du monde entier, pour écrire, encore demander éventuellement un objet qui a appartenu au maître, encore une photographie. Et on voit voilà, que c'est quelque chose qui perdure dans le temps, qui perdure durant tout le XXe siècle, avant que finalement, il se trouve que là, nous, l'image qu'on avait tous, et même moi en tant que Provençale, on avait tous une image... un petit peu voilà, réduite à un physique. Hein. Finalement, on va vous dire Frédéric Mistral, on va voir le personnage, on va imaginer le chapeau, la petite barbe.
Un peu folklorique peut-être.
Voilà.
Oui.
Quelque chose qui relève un peu du folklorique.
Oui, voilà.
Et en fait, je trouve que du coup, là, la lecture, le classement de ce fond a vraiment permis de remettre toute une dimension... extrêmement, enfin de star à ce personnage, ce qu'il avait et qui a été un petit peu oublié. Il y a une dimension un petit peu aussi de sanctification du personnage. Les gens écrivent à Marie Mistral pour lui demander un objet qui a appartenu au maître. Donc il est décédé, mais on veut quand même avoir quelque chose. Certains disent, ben oui, je vais faire un reliquaire avec cet objet. Donc voilà, il y a quelque chose là qui était intéressant. Donc c'est vraiment cette optique que propose de découvrir l'exposition.
Vous l'entendez, les klaxons, vous entendez les bruits. Nous
on
sommes
dans la ville,
Caire,
hein.
Un Caire du marché de la paillade pour un plateau indirect, un partenariat avec FM+ et Radio Lingua. Doc. Fanny Reboul, vous m'avez dit, cette exposition inédite, elle emploie le fonds venu de Claude Goya, mais également cette exposition bénéficie des prêts prestigieux des grandes institutions comme le Louvre ou la Bibliothèque nationale de France. Alors comment avez-vous sélectionné ces œuvres et documents pour enrichir le parcours ?
Oui, effectivement, le fonds est vraiment essentiellement composé de documents d'archives, de correspondances, voire de presse également. On n'avait pas du tout d'ouvrages, d'édition des ouvrages de Frédéric Mistral. On voulait vraiment une exposition qui soit accessible. On souhaite que cette exposition soit vraiment pour tous les publics. Et derrière, on a tout un service qui assure la médiation et qui va faire en sorte que le propos soit vraiment accessible à tous. Et pour nous, voilà, évidemment, il fallait des objets, il fallait beaucoup plus de typologie pour cette exposition. Donc, on a pu avoir de très, très bons contacts avec des institutions nationales. Vous les citiez vous les citiez tout à l'heure. Il y a également le Musée national du costume de scène, le MUCEM à Marseille, et puis des institutions plus locales. Bien sûr, la Maison de Mayanne, la maison de Frédéric Mistral à Mayanne, et puis un partenariat un peu privilégié aussi avec le Musée Art Latin.
Alors, comment on aborde son côté prix Nobel de la littérature? On parle de ses émotions aussi, on parle de la construction de son œuvre littéraire, parce qu'il plongeait vraiment au moment de ses écritures. Est-ce qu'on aura aussi ce côté l'humain qui travaille, qui se donne de tout son cœur pour sa langue provençale?
Oui, puisque dans sa correspondance, puisqu'on a une partie de la correspondance qu'il a lui-même reçue ou écrite, on voit quand même, on peut quand même voir un petit peu ce qu'il pense de tout ça, ce qui lui tient à cœur, et avoir aussi des éléments sur la construction finalement de son œuvre littéraire. Parce que c'est aussi l'enjeu de cette exposition. Frédéric Mistral, bien entendu, c'est le fondateur du Félibrige, ce mouvement de défense des traditions et de la langue provençale. C'est l'auteur de ce dictionnaire qui fait encore référence aujourd'hui, le Trésor du Félibrige. Mais c'est aussi un auteur, un poète. Lamartine disait, lors de l'apparition de Mireille en 1859, un grand poète épique est né. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de montrer tout ce processus créatif, et puis de rentrer quand même aussi dans l'intimité du personnage, notamment par la correspondance qu'il a entretenue avec sa femme avant et après leur mariage.
Nourdine Barra, vous connaissiez déjà Frédéric Mistral?
Ah, je découvre là, et je vais creuser la question et aller à Pierre Vive, nourrir ma curiosité là qui est très grande.
Et vous, Nathalie?
Moi, je connais bien, parce que je tiens la chronique littéraire à la radio, donc oui. Je connaissais, mais je crois que je me trompe. Donc je vais aller longuement à l'expo, parce que c'est Bruno Cécillon qui m'a dit « tu te trompes ». Alors, pour moi, Félibrige, c'est un mouvement assez réactionnaire. Voilà, je les imaginais de droite, très. Donc j'étais un petit peu... Voilà, sur la réserve, et Bruno me dit non, va découvrir, tu vas voir.
Oui. Oui, mais alors justement, c'est quelque chose qui est abordé dans l'exposition aussi. Parce que Frédéric Mistral, il ne s'est jamais impliqué politiquement. Hein, de toute sa, voilà, durant toute sa vie, c'est pas quelqu'un qui est marqué politiquement, mais c'est quelqu'un dont l'image et dont son personnage même a pu être réutilisé dans une récupération un peu politique, effectivement par des milieux peut-être un petit peu plus à droite.
Je crois qu'il y a aussi le fils, c'est Alphonse Daudet, la chèvre de Monsieur Seguin, le père. Et je crois que Léon Daudet, lui, a été vraiment dans beaucoup de mouvements d'écrivains de droite, voilà, et que les Félibrige, du coup, ça a un petit peu...
C'est ça. Alors on a toute une correspondance aussi de Frédéric Mistral avec Charles Maurras. Ouais. Alors Charles Maurras, évidemment, c'est quand même voilà, l'Action française, mais on voit que la correspondance, elle va vraiment tourner autour de la défense de la langue provençale, de la culture provençale, et vraiment Frédéric Mistral, c'est pas du tout la politique qui l'intéresse, même si tout jeune, on va dire, en 1848, il était très très enthousiasmé par la Seconde République. Et puis après le coup d'État de 1851, bon, il s'est vite désintéressé de tout ça.
Ils l'ont tous été, hein, Hugo, Georges Sand, tous en premier.
Après, il y a toujours la question que l'on regarde aujourd'hui avec nos filtres, nos connaissances et nos avancées politiques, humaines, des sociétés. Et à une autre époque, donc il faut toujours regarder avec beaucoup de délicatesse les questions politiques, puisque nous n'étions pas déjà, et nos filtres actuels ne peuvent pas tout résumer non plus, n'est-ce pas?
Tout à fait Gisèle, c'est pour ça que bon, ce genre d'expo est très enrichissante, et pour casser justement les idées reçues, comme notre présence aussi en ce moment, c'est aussi pour casser des idées reçues pour la paillade. Et c'est vrai que c'est ce qui nous intéressait aussi avec Bruno, c'est de faire la langue française, la langue arabe et la langue occitane, et c'est pas pour rien, c'est lui, je crois, qui a trouvé le nom de langue et culture en Occitanie, et là on parle de la langue des Félibriges, voilà, et on sait aussi que c'est une recherche de racines, et qu'il peut aussi y avoir cette histoire-là à la paillade. de ne pas oublier ses racines.
Alors justement, Fanny Reboul, une toute dernière question autour de cette grande expo qui se tient du 18 octobre 2024 jusqu'au 8 février 2025, Mistral Superstar. Quel rôle espérez-vous justement que cette exposition pourra jouer dans la transmission de l'héritage des Mistral ici, en cœur du quartier de la Paillade?
Moi, ce que je vois surtout, c'est une découverte d'un auteur, et puis d'un auteur qui a toujours défendu sa culture, sa langue provençale, qui était un petit peu délaissé quand même, hein, au moment où il a fondé le Philippe Brige en 1854, il y avait un vrai besoin, hein, de redonner un peu ses lettres de noblesse aussi au provençal, et puis voilà, d'entretenir, voire de renouveler ses traditions. Et puis moi, ce que j'espère surtout, voilà, c'est de dépoussiérer un peu cette image. C'est pas juste non plus ce défenseur, c'est aussi un grand écrivain et puis une véritable star à l'époque. Et ça nous paraissait, voilà, intéressant de le montrer, et vous le verrez si vous venez dans une scénographie tout à fait adaptée aux propos qu'on souhaite présenter.
Merci beaucoup, Fanny.
Merci à vous.
Merci. Conservatrice en chef du patrimoine, elle est la commissaire de l'exposition Frédéric Mistral, Superstar de Pierre Vive. Nordine Barra, on va visiter l'expo des Mistral, on va s'inspirer aussi de ses actions pour la culture, la langue.
Mais oui, tout à fait, oui. Moi, j'y vais la semaine prochaine. Et si je peux, j'embarque avec moi le fascicule là, que vous avez amené, qui est de votre production, ça, non ?
Oui, ça, c'est le programme
Pierre
Vive.
C'est le programme des Pierre Vive. On trouve tout l'agenda. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, là.
Tout l'agenda, oui, effectivement, jusqu'à février. Et on voit qu'il y a énormément d'activités, d'actions pour tous les publics. Et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Nordine, c'est peut-être un bon lieu pour installer une agora.
Ah, mais on l'a déjà fait.
Ah oui.
Oui, on a déjà fait ça un soir, une agora à l'intérieur de Pierre Vive, et c'était incroyable.
Alors justement, Nordine Barra, vous êtes un agitateur culturel en cœur de la Paillade. Vous êtes aussi auteur de ouvrages. On s'intéresse maintenant à son profil, Nordine. Qu'est-ce que vous a inspiré justement à organiser des agoras sur l'espace public ou aussi dans les médiathèques? Ces rencontres qui ont évolué au fil des 15 dernières années, quelles sont vos inspirations?
Alors, moi, il faut savoir que j'ai grandi dans un quartier, la Paillade, qui était, il y a 40 ans, j'ai 48 ans aujourd'hui, autrement plus métissé, aux origines sociales aussi très diverses. Et j'ai grandi avec ça, et j'ai vu peu à peu ce quartier perdre de sa diversité. Et c'est quelque chose dont on ne se résout pas, en fait.
Comment ça, peu à peu, perdre de sa diversité?
Année après année, cette mixité. J'ai grandi dans un quartier où nos voisins étaient d'origine italienne, espagnole, portugaise. Nos photos de classe ne sont pas du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et je sais que les enfants aujourd'hui qui grandissent à la Paillade se voient retirer ce qui a été pour nous et ceux de mon âge. Un beau trésor, cette diversité qui est tout ce qui manque à des enfants qui là se construisent avec un pan entier de la population amputée de leur expérience de vie. Il faut savoir qu'à la Paillade, on peut aller de la maternelle au collège, et donc de sa naissance à ses 15 ans sans connaître cette mixité, et la découvrir un peu trop tard, une fois qu'on arrive au lycée, si par chance on arrive au lycée. Et c'est beaucoup trop tard pour faire la rencontre de cultures, d'affinités très différentes. À ce moment-là, il y a un plit ou pailladin qui est déjà est très quartier populaire, qui vous marque déjà et qui rend compliqué la rencontre avec d'autres jeunes qui écoutent d'autres musiques, qui ont d'autres références.
Nordine, j'essaie de comprendre ce que vous nous dites là. Vous nous parlez d'un entre-soi.
Non, l'entre-soi, ce serait quelque chose que je n'aime pas parce que ce serait une sorte d'acte recherché.
C'est quelque chose d'involontaire.
C'est très subi et pas désiré par les habitants.
D'accord.
Qui s'en défendent pas, donc vis-à-vis desquels on spécule que cet entre-soi est recherché, mais pas du tout. Voilà pourquoi il est important que des médias s'arrêtent dans ce quartier et voilà pourquoi. On vous interpelle dans la rue, on est en manque de...
Ou d'avoir un dispositif comme Pierre Vive.
Tout à fait. Voilà. Qui sont des lieux de médiation aussi, mm-hmm. et de rencontres, et de, des lieux où des publics se croisent.
Et pourtant, on nous parle tellement à la télévision que les programmes des mixités sociales sont importants, mais dans la pratique, on ne les voit pas.
Alors, depuis quelques années, c'est vrai que je vois malgré tout, et c'est formidable, de plus en plus d'initiatives qui entend amener dans ce quartier plus de mixité et puis des élans qui vont du centre vers le quartier, mais aussi un quartier qui sait organiser ces moments et ces espaces de rassemblement. Et vous me posiez la question, c'est ça qui motivait d'abord... l'organisation d'Agora sur l'espace public. Je voulais créer, aussi éphémère soit-elle, cette mixité. Le temps d'une Agora, un dimanche matin, un samedi soir, à l'occasion de Dites-le avec un livre, par exemple, ou d'une Agora quelconque. Je voulais que cette rencontre ait lieu et que l'on se perde pas trop de vue, au risque de finir par nourrir une opinion vis-à-vis de la vie de l'autre, une opinion très péjorative, une méfiance, et qui pourrait devenir un jour défiance. On n'a pas le droit de se perdre de vue et de se renseigner sur la vie de l'autre seulement par médias interposés, par politiques interposées. Ces rencontres-là, c'était le vœu d'un échange en circuit court entre habitants du centre et du quartier. Qu'ils se sondent directement, qu'ils s'interrogent les uns sur la vie de l'autre et qu'ils repartent chacun meilleure connaissance, en meilleure connaissance de la vie de l'autre.
Ouais. Ces ponts, ils ont bien fonctionné ? Il y a eu des allers-retours
Oui. Pourvu que les conditions proposées à cette rencontre soient honnêtes, aussitôt les gens... nourrissent vis-à-vis de celui qui s'exprime au micro une affection qui est aussi un exercice de fraternité qui opère pourvu qu'on ne conduise pas les gens non plus à des rencontres qui leur donnerait à la charge à chacun de commenter ce malentendu. Je m'attache à organiser des rencontres où les questions posées, où le motif de rassemblement ne soit pas d'inspiration trop politique ou trop médiatique. Voilà pourquoi la littérature est un mode assez fantastique pour conduire les gens à faire plutôt le partage de sentiments partagés et faire valoir chacun ce qu'il a de plus humainement commun avec l'autre. La littérature pour ça, pour nous dégager de toutes ces questions d'ordre trop politique, aux considérations toujours plus incroyables dont on ne se sort plus, religieuses, géopolitiques, enfin si ça fonctionne, c'est parce que les gens sont conduits à une rencontre qui invite à vivre ce que l'on se dit d'abord lorsqu'on fait une rencontre avec quelqu'un. Ce sont des présentations qui sont à refaire et on n'a pas le mauvais goût lors de ces rencontres de charger voilà, d'une sorte de mission des habitants que l'on veut conduire dans leur état le plus simple et dans leur élan le plus humain.
Nathalie ?
Oui, c'est vrai que j'ai envie d'intervenir et de soutenir le propos de Nourdine. Donc hier, je vous disais, j'étais une visite improvisée aux Olympiades Payade. Et j'ai découvert une association que peut-être tu connais qui s'appelle Esprit Libre.
Oui, très bien.
Ouais. Et donc, j'ai commencé la rencontre en interviewant Olivier de l'IPEC, qui dit, quand on est arrivé il y a 25 ans, on a créé nous, on venait du centre-ville ou de la mairie ou du département, des structures pour l'économie solidaire et sociale et pour aider, voilà. Et puis, ce qui est formidable maintenant, c'est qu'il y a des gens du quartier qui prennent eux-mêmes le pouvoir là-dessus, et il m'a cité Esprit Libre. Alors après, j'étais le rencontrer, donc Esprit Libre, tu peux en dire deux mots, mais c'est donner l'accès. Oui, pas trop, non, mais j'ai noté parce que je voudrais pas les trahir. Donc ils organisent des ateliers avec les enfants de lecture commune, en partenariat avec Jean-Jacques Rousseau. C'est pour ça, Fanny, que je m'arrêtais là-dessus, parce que là... C'est eux qui vont utiliser les services publics. C'est pas les services publics qui vont vers la structure. C'est eux qui investissent l'espace public aussi. Donc voilà. Et hier, il y avait ils avaient mis des coussins et les mômes lisaient. Alors il y a des besoins à livres. Hein, j'appelle puisque on est en direct. Si vous avez des livres à donner à l'association Esprit Libre à la Paillade, n'hésitez pas. Et puis ils font même des ateliers d'écriture pour les ados. Enfin voilà, il y a vraiment une démarche vers les littératures formidable. Voilà. Donc c'était pour un peu soutenir ton propos.
Oui,
de l'importance.
Super travail, ouais, oui.
Esprit Libre.
Nous voilà. Avons un autre invité qui vient de nous joindre. C'est Jean de Lagui. Yoni, bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour.
Je prends un micro, c'est mieux.
Comment allez-vous?
Personnellement, je vais bien. Le monde va mal, mais moi, je vais bien.
Bon, on essaie, on fait de notre mieux aussi. Jean, vous êtes un tout nouvel arrivant au quartier de la Paillade.
Ah, c'est vrai que par rapport à Nordu, je suis un frais débarqué. Oui, moi, ça va faire un peu... En avril prochain, ça fera 3 ans que je suis là.
Alors, quelles ont été vos premières impressions, justement, depuis votre arrivée?
Ah, très mauvaise. J'ai fait en sorte de vite partir, mais j'ai du mal. Non, je suis très content d'être là. Très, très content. En fait, j'habitais un peu partout à Montpellier. Le hasard a voulu qu'on me propose de venir habiter ici. Et j'ai dit, pourquoi pas, banco. Et en fait, j'en suis très, très content. Franchement, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai habité partout à Montpellier, pas qu'à Montpellier, mais à Montpellier dans tous les quartiers. Et franchement, par rapport au centre-ville où j'ai pu habiter, l'Écusson, je préfère 10 fois être ici.
Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir les lieux, la vie locale, comme par exemple Pierre-Vive?
Oui, bien sûr, bah quand même, oui. Oui, bien sûr.
Et vous participez des événements que Nourdine crée ici au
cœur de... Je suis un très mauvais client et j'ai honte devant Nourdine, mais souvent il me sollicite, mais en fait il se trouve que je suis pas mal actif dans des associations humanitaires et chaque fois qu'il fait des choses, c'est pas que je me dérobe, mais c'est vrai que ça tombe au moment où on est dans la distribution de repas.
Dans quelles associations vous y êtes?
J'étais au Resto du Cœur de la Mosson et puis aussi le soir à l'association humanitaire de Montpellier, donc à Richter, où on distribue des repas tous les soirs, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà, pour ceux qui ont besoin d'être nourris.
Ça fait depuis combien de temps que vous faites ce travail humanitaire?
Depuis 5 ans à peu près. En fait, j'ai commencé avec le confinement. En fait, on a démarré parce que les étudiants étrangers étaient bloqués dans leur fac à Montpellier. Et donc, sans trop de possibilités pour rentrer chez eux parce que ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher quand vous êtes antillais, par exemple, les billets d'avion coûtent énormément cher.
Bon, et puis à l'époque, tout était un peu bloqué aussi pour rentrer chez soi. Oui.
Et du coup, il y avait une vraie demande au niveau alimentaire, quoi. Et donc, on a commencé comme ça dans les facs, en fait, hein, dans les restos U et compagnie, qui eux-mêmes ne fonctionnaient pas, mais nous, on avait fait des... Enfin, c'est pas moi, d'ailleurs, qui avait monté ça, mais enfin, il y avait des alternatives pour des repas. Et donc, de fil en aiguille, après, j'ai atterri à l'association humanitaire qui était partie prenante de ce genre de distribution.
Alors, on revient à Nourdine Bara, parce que vous avez créé Dites-le avec un livre des Kézako, Nourdine. C'est un événement littéraire en cœur de la Paillade.
C'est ça, c'est une agora littéraire qui prend place et vie sur l'espace public et qui invite, encore une fois, des habitants du centre-ville et du quartier à venir nous parler de l'amour qu'ils portent pour un livre. Et c'est assez fabuleux ce qu'il s'y passe. Il ne se lance pas dans un exercice forcé de critique littéraire. C'est à chaque fois une façon très différente de parler d'un livre et je trouve que la littérature et les auteurs y gagnent. Il faut entendre ces témoignages qui confondent dans leurs témoignages le propos d'un livre avec le leur et cette manière... rarement entendu de se saisir de d'un auteur, d'une histoire pour la confondre avec une vie qui se raconte aussi fait de cet exercice un moment, je trouve, d'expression très, très authentique. J'aime beaucoup la manière dont ces gens, vis-à-vis des auteurs, ne nourrissent aucun sentiment de révérence.
Donc, c'est pas vrai qu'à l'heure actuelle, les gens ne lisent plus ?
En tout cas, peut-être différemment.
Différemment.
Mais beaucoup viennent avec des livres pas forcément actuels. Quand j'aborde un habitant ici, et ils sont quelques-uns quand même à me dire « je lis pas ». Alors il est question d'aller chercher dans leurs souvenirs, malgré tout, un livre qui corresponde aussi, et c'est très important, à quelque chose qu'ils ont envie de dire. Ça s'appelle « Dites-le avec un livre ». Le mm-hmm. livre est un petit peu prétexte à venir raconter quelque chose qui vous pèse ou que l'on estime urgent à partager. Alors quelquefois même, ça donne des livres choisis qui, vis-à-vis du propos principal que l'habitant est venu porter, il y a quelque chose parfois dans le choix qui est tiré par les cheveux. Mais c'est ce qui aussi rend ce moment-là très, je trouve, attendrissant par le courage quand même qu'il faut et puis l'inventivité pour malgré tout ramifier un livre, son propos, son histoire à quelque chose qui de plus important qu'on était venu dire à une assemblée. Voilà, je fais venir des gens et c'est ceux vers lesquels je vais le plus. J'aime aller vers les paroles les plus fragiles, celles qui s'interdisent l'expression, qui se font à eux-mêmes des procès en illégitimité. Et ces gens-là, il s'agit de les convaincre de venir dire ce qu'ils ont à dire d'important. Et quelquefois, le choix du livre est un peu accessoire. Et bien, voilà pourquoi ça donne des témoignages très particuliers.
Est-ce que vous avez une petite histoire à nous raconter de quelque chose qui est déjà sorti lors d'un événement comme Dites-le avec un livre ?
Alors, on trouve toujours, on trouve toujours chez quelqu'un un livre important, plus important qu'il le pensait. Donc, du coup, beaucoup sont venus avec, je vais donner des exemples, quelqu'un est venu avec un dictionnaire pour nous parler de l'importance des mots. Un autre est venu avec le guide du routard pour nous raconter les péripéties en famille quand les voitures étaient chargées et que le papa se perdait chaque année sur les routes en Espagne. Et je me rappelle aussi de ce garçon, Ali, qui était venu 2 jours après un accident grave qui a eu à la Payade. Après un match, une voiture s'était lancée dans un rodéo et avait renversé une mère de famille qui est morte et qui était enceinte. Et il y avait sa fille aussi qui a eu la jambe cassée, je crois. Et il est venu nous parler, il est moniteur d'auto-école, Ali, et il est venu avec le guide du routard. Il est venu avec le code de la route.
Ah oui.
Et il nous a parlé du code de la route, il nous a dit des choses très originales d'ailleurs là-dessus. Sur un livre qui existait avant même l'existence de la voiture. Depuis qu'il y a des routes, il y a un code de la route. Il a même réussi à nous passionner et puis on l'a pris au sérieux. Et puis doucement, ses yeux se sont mis un peu à briller. Et là, il nous a dit pourquoi il avait amené ce livre. Parce que cette femme qui était morte 2 jours avant, c'était sa voisine. Et qu'il avait voulu faire de son témoignage un moment de prévention. D'abord un hommage à cette femme mais aussi un moment d'alerte à qui voudrait l'écouter à ce moment-là et une invitation à la prudence sur la route. Voilà, c'est des témoignages comme cela. C'est une avocate qui vient avec le code civil pour dire qu'elle arrête ce métier et elle nous en dit les raisons. C'est beaucoup, beaucoup de livres comme ça qui...
Ça finit par passer beaucoup par le personnel, aussi par l'intime de chacune et chacun. Nathalie, si vous veniez pour un événement, dites-le avec un livre. Quel c'est votre livre ?
Eh bien, moi j'ai découvert il y a très peu de temps une grande autrice du Maghreb. C'est Assia Djebbar. Je ne la connaissais pas. C'est par les Chèvrefeuilles étoilées qui m'ont fait découvrir cette autrice et qui a une voix extrêmement moderne dans une Algérie des années 60 à peu près. Et voilà, ça c'est quelque chose, j'aimerais venir avec un livre et partager ce genre de livre. On parle beaucoup de la littérature américaine par exemple, énormément des grands auteurs américains, je trouve, sans démagogie vraiment, qu'on parle très très peu quand même de grands auteurs du Maghreb, je trouve.
Mais justement, dans ces témoignages et ces moments forts de Dites-le avec un livre, je m'appelle d'un garçon, Hamid, qui était venu... c'est marrant parce que il avait surtout quelque chose à dire, et les gens qui viennent ont surtout quelque chose à dire et pensent que pour se le permettre ou se le voir autorisé, ils doivent amener un livre. Et c'est là qu'il se passe une chose, une sorte de... d'arrangement avec soi-même pour avoir son ticket d'entrée qu'on détecte bien, personne n'est dupe de ce qui se passe. Je le redis, ça n'enlève rien au livre, au contraire. Mais je me rappelle de Hamid qui voulait absolument nous dire quelque chose d'important qu'il avait vécu de très fort en Algérie. Et il m'avait dit la semaine d'avant, écoute, j'ai pas de livre à présenter, mais j'avais très envie de lire Yasmina Kadra, justement, formidable auteur. Algérien qui a écrit entre autres ce que le jour doit à la nuit. Je trouve que ce titre est d'une évocation poétique incroyable.
Les Hirondelles de Kaboul, c'est pas lui aussi?
Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est venu nous parler d'un livre qu'il n'avait pas réussi à aller chercher chez sa sœur, qu'il n'avait pas eu le temps de lire, et on peut même venir parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Et en l'occurrence, lui, et je vais le dire parce qu'il a pu le dire en public, c'est qu'il en produisait déjà un témoignage que je vais prolonger là. Il voulait raconter la fois où il était sorti d'un restaurant en Algérie et où, au pas de la porte, il avait vu une tête. Voilà. Bon, j'ai pas d'histoire très gaie à raconter non plus, il y en avait des plus drôles, mais voilà, c'est des moments aussi forts que ça. Et je le redis, dans l'inventivité des gens pour ramifier, raccrocher un livre à ce qu'ils ont envie de dire, il y a dans cet exercice-là de justification quelque chose de terriblement beau et humain, je trouve.
Des paroles citoyennes, des paroles profondes. Fanny Heboul, si vous pouvez venir à Dites-le avec un livre, vous venez avec Mireille ou Calendau de Frédéric Mistral?
Je pense que je viens avec Nert, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est un petit poème fantastique qui retrace aussi un épisode de l'histoire de la Provence quand la papauté était à Avignon. Et c'est quelque chose c'est un ouvrage qui a eu un grand, grand succès, alors que Calendal a eu un succès un peu plus mitigé. Mais je viens plutôt avec Nert, oui. Donc forcément, vous ne me donniez pas trop de choix. Il fallait que je vienne avec un livre de Frédéric Mistral. C'était d'accord.
C'est plus léger que de venir avec Les Trésors du Félibrige.
Exactement, qui est quand même en plusieurs volumes. Voilà. Alors Nert, en plus, se lit très très bien. Je le dis, pour ceux qui voudraient commencer à lire Mistral, c'est certainement celui qui, je trouve, se lit de la manière la plus facile. Parce que c'est vrai que sinon, c'est une littérature à laquelle on est moins habitué aujourd'hui et qui peut être un peu plus difficile d'accès, en tout cas. Mais Nert, tout le monde peut y aller.
Jean de la Guionie, puisqu'on fait ce tour de table littéraire, quel serait votre livre pour participer de Dites-le avec un livre?
C'est difficile de choisir. Moi, je ne suis pas très moderne. J'ai toujours un auteur de référence, c'est Romain Gary. Je suis un inconditionnel de Romain Gary, donc n'importe quoi de Romain Gary, mais Chien Blanc, par exemple, ou des choses comme ça, ouais. Qui est toujours très actuel, parce que franchement, ça parle du racisme aux États-Unis, mais c'est universel, malheureusement.
Le racisme est universel, on est d'accord. Nordine, vous nous avez raconté des histoires, des livres, mais pas le vôtre. Alors, lesquels seraient le vôtre des livres pour Dites-le avec un livre?
J'ai écrit 3 livres. Ça sera fonction... de mon humeur du moment. Le premier parle d'enfance et je l'amènerai si j'avais envie de faire le partage d'une poésie. Le deuxième parle de déclassement, mais de manière, j'espère, très que j'ai voulu poétique en tout cas, et de déclassement social et du rapport à l'autre. Mais je crois que si je voulais gâcher l'ambiance et si j'étais de mauvaise humeur, je viendrais avec mon pamphlet sur le... que j'ai écrit contre le théâtre, voilà, un pamphlet qui fait état de ce que j'estime être un gâchis provoqué, dont j'attribue le tort au théâtre, d'un gâchis et qui est une rencontre qui n'aura pas eu lieu entre quartier populaire et le théâtre, voilà, et une rencontre qui à mon...
Parce que c'est une grande absence.
Oui, moi j'estime que c'est une... C'est un grand refus qu'une absence. C'est pas une absence.
Néanmoins, dans la ville de Montpellier, on trouve des théâtres installés en cœur des quartiers. Ici même, nous avons le théâtre Jean Villard. C'est pas un dispositif accessible la population ?
Ah si, si. Et ils en produisent et ils multiplient les invitations faites à la population et aux habitants. Je parlais tout à l'heure de cette difficulté et du danger auquel on est conduit en se parlant si peu, habitant des quartiers du centre. Et je parlais d'une méfiance que ça faisait grandir et qui va devenir défiance, j'en suis certain. Et j'espérais des théâtres et de ces lieux de culture qu'ils soient ces espaces de médiation qui nous offrirait un autre temps et d'autres égards pour que des vies se racontent, des vies susceptibles, lorsqu'elles se racontent, de faire mentir le pire.
Est-ce que vous parlez là des places des paroles ?
Oui, tout à fait.
Oui.
J'espérais du théâtre qui soit cet espace d'accueil d'un récit qui soit celui porté par les habitants des quartiers populaires et qui raconte autre chose que cette espèce de projet que l'on nous prête de vouloir faire sécession, de vouloir... voilà pourquoi je refuse des mots comme entre-soi qui participerait d'un projet très volontaire de se distancier du plus grand nombre et d'un projet de société commun. Entre-soi participe de ce lexique qui raconte ce projet. Un projet qui est pas qu'il est question de faire mentir, parce que c'est pas du tout ce qui, et vous le vérifiez là, qui est pas du tout quelque chose qui anime les habitants, c'est pas du tout on souffre davantage d'un sentiment d'exclusion qu'une espèce de satisfaction à avoir réussi autour de soi un environnement suffisamment homogène pour s'y sentir bien, en connivence. On nous prête une volonté qu'on n'a pas eue et qui aujourd'hui se referme sur nous comme un piège mortel. Et je salue la présence de cette initiative. Là, vous, ici, c'est formidable. D'ailleurs, une partie de mon esprit est très occupée à apprécier le tableau et une autre essaie de vous répondre. Mais des choses belles arrivent et Pierre vive dans nos vies, c'est formidable. Et puis je salue, je vais en profiter parce que c'est un truc qui m'épate chez Pierre Vive. C'est la façon dont il laisse les enfants se saisir de l'espace sans se comporter en protecteur d'un objet trop précieux. Vous voyez, ils ont bien saisi ce rapport à l'enfance est réussi, je trouve, par Pierre Vive. Et donc du coup, ces mômes sont conduits à une fréquentation du livre assidu et prolongé dans leur vie, et ça va porter ses fruits, c'est formidable.
C'est là exactement ce que je voulais dire et demander à Fanny. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont là-bas parce qu'il y a énormément d'ateliers. Moi, j'avais suivi toutes les photos des vous deviez déjà être là. Il y avait toute une expo qui était consacrée aux malfrats. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait des sales tronches aux États-Unis et il y avait eu une balade nocturne qui avait été faite par Michel Moati où on visitait tout avec des récits sur les grands romans 1880 à Londres. Et j'avais découvert plein d'ateliers aussi qui étaient faits, même de dessins de truands, tout ça, c'était les enfants, ça appartenait à ça. Ça marche bien, les gens y vont assez facilement, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai que ça fait le lien à chaque fois avec des expositions ou des événements, et finalement, ça permet de les amener aussi à ça.
Puisqu'on parle des langues aussi, c'est le but de ces plateaux, de cette résidence radiophonique. Quelle langue parle la population ici, Nourdine ? Quelle langue on entend dans la rue actuellement ? Vous nous disiez au départ, on avait de l'espagnol, du portugais, on avait de l'italien à l'ère actuelle.
Bon, on parle, tout dépend où. Bon, si on approche la jeunesse et qu'on tend l'oreille vers elle, on l'entendra parler français. Et les plus anciens, arabes. Je pense. Vous me direz si je me souviens d'une amie, Jeanne Bastide, qui est autrice et qui est du coin et qui me racontait que quand elle était petite, on réprimait son désir de parler, on interdisait aux petits de parler occitan.
Tout à fait.
On a vraiment, comment dire.
Il était interdit de cracher.
Oui.
Et de parler patois, comme on appelait les langues régionales autrement.
Et c'est elle qui me disait, je pense à ces jeunes, à ces gens d'origine arabe, mal vus quand ils parlent arabe dans le tramway, dans la rue, à des endroits où ils se devraient de parler français pour, peut-être encore une fois, si on les soupçonne de nourrir un projet, si au départ c'est le regard qu'on porte sur eux, à savoir de porter un projet de sécession.
Je vous garantis que ce soit l'arabe, le portugais ou l'occitan, nous avons tous été interdits de les parler ou de les transmettre à nos enfants.
Mais Fanny le disait tout à l'heure, au moment de Mistral, c'est interdit de parler provençal, comme ça a été très longtemps, puisque la dernière langue la plus parlée en France, c'était quand même le breton. Et moi, je me rappelle même dans mon enfance, et dans la soixantaine, on parlait encore breton, et les Alsaciens aussi, mais les Bretons, il y a vraiment eu un gros combat pour les obliger à parler français.
Nourdine, en Provence aussi, il y a eu ça, je crois. Partager les douleurs, vous n'êtes pas le seul.
Merci beaucoup. Je pense à, et j'en suis certain, je pense à, à une douleur là.
C'est une douleur.
Je pense à celle des étudiants étrangers à Montpellier. Dans les déclinaisons de Dites-le avec un livre, il y a des spéciales étudiants étrangers de Montpellier que l'on découvre même à la fin de l'année. Dans leurs témoignages, on entend qu'ils ont eux aussi progressé dans une vie, dans la ville, très en parallèle du plus grand nombre, qu'ils ont dû se tracer eux-mêmes des chemins qui croisaient peu celles des Français, qui se donnent à Montpellier, peut-être ailleurs, c'est ce qui se dit, peu de temps à l'étranger qui maîtrise mal la langue. Et je trouvais important de les amener sur l'espace public et de provoquer un geste qui d'abord d'accueil, parce qu'il était hors de question, l'idée qu'ils partent et qui quitte Montpellier, la France, avec cette sensation d'avoir été mal accueilli, me fend le cœur. Et vous savez quoi ? Pour être sûr que cette fraternité attrapée à la dernière minute opère et qu'elle soit donnée en une fois sans retenue, je les amène dans des quartiers populaires pour ça. À La Paillade, comme le 29 avec les étudiants venus des USA qui occuperont le parc ici pour nous raconter avec des livres d'où ils viennent, quel est le livre qu'ils amènent. Et puis très souvent, j'ai dû en faire une quinzaine à Plancabane. Et voilà, si on veut s'assurer d'un shoot de fraternité, aller dans les quartiers populaires.
C'est le 29 octobre, le prochain rendez-vous ?
C'est ça.
Ici ?
Le 29 octobre à 15h.
Au parc Sophie Desmarais ?
Oui.
On en a un vendredi matin quand même aussi, puisque là on est en direct, je crois.
Ah, demain.
Demain matin. Demain matin.
C'est pas tout à fait un dit-le avec un livre.
Mais c'est aussi une démarche de campus.
Oui.
Voilà, c'est dans ça. La démarche du campus. Ouais.
Bon, très bien. Donc rendez-vous ce vendredi 11 octobre à quelle heure ?
Alors c'est pas ouvert à un tout public en fait. On va
Nathalie.
Accueillir. Mais tu feras partie des observateurs. Mais
le mardi
autorisés.
29 octobre est ouvert à tout le monde qui veut venir avec un
29
livre.
29 novembre.
Au novembre.
Non, on sera là nous Montpelliérains pour écouter ces étudiants venus des USA. Plus tard dans le mois, ce sera ceux venus d'Allemagne. Et puis encore une autre fois, ce sera une réunion, une sélection d'étudiants venus du monde entier qui viendront nous parler. Et que Montpellier aussi ne s'avilie pas d'abord à se montrer mauvais hôte, mais ne se ridiculise pas non plus à vivre avec autant d'ambassadeurs en puissance venus du monde entier sans en puiser tout l'avantage.
Nourdine, vous nous ferez savoir les dates des prochains rendez-vous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi à Nathalie Bouly, Fanny Reboul et Jean de Laguioni. Merci beaucoup pour votre participation.
Merci beaucoup de l'invitation.
Ce plateau, il était très riche. Un cœur de La Paillade. Merci Bruno, Cécillon, pour la logistique et pour l'organisation de ce plateau. Merci à notre public. Et merci au bar du marché, le bar du mercat et à la boucherie L'Excellence pour la prise électrique. Bon entendu à toutes. Vous disons rendez-vous à l'estudio de Radio Lingodol ou divendres pour parler des droits humains. Adicias, bon entendu à toutes. Merci Lucas Dulac pour la technique. À quoi que vient?